que tu es Cédric Florton, 46 ans maintenant, donc un peu plus vieux que toi, j'ai cru comprendre. C'était aux alentours des années 2000-2010. Il est jamais trop tard, et c'est vrai que peut-être que j'ai enfoncé des portes à ce niveau-là, mais moi, quand j'ai commencé dans ce sport, je pense qu'il n'y avait pas un entraîneur national, il n'y avait pas un entraîneur tout court qui aurait misé un euro sur ma pomme. J'ai jamais eu en tête de vivre de mon sport, en fait. Que c'était en francs, hein. Moi, ça devait être 300, c'était 3 fois rien, mais c'était déjà énorme.
Salut les sportifs, c'est Hermano et je vous accueille pour ouvrir le 6e casier des vestiaires. Je suis très ému de vous présenter cet épisode car celui-ci me ramène à mes premières amours qu'est le triathlon. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est en fait la combinaison de 3 épreuves que l'on enchaîne et qui se pratiquent sur différentes distances. De la plus courte, qui peut se finir en quelques minutes, à la plus longue, la distance dite Ironman, que les meilleurs mondiaux finissent en à peine plus de 7h35. Et aujourd'hui, j'ai reçu celui qui était une idole pour moi au début des années 2000. Un ancien triathlète qui performait sur la distance dite olympique et qui pourtant vivait avec quelques centaines de francs. Oui, vous avez bien entendu, quelques centaines de francs et pas quelques centaines d'euros. Mais juste avant de vous laisser écouter cet opus chargé en émotions, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et son but est double. Son premier objectif, enfoncer des portes sur le financement des carrières des sportives et sportifs professionnels. Et oui, sport de niveau ne rime pas forcément avec rouler sur l'or. Mais ce n'est pas tout. Le second objectif est d'avancer sur les projets que je nourris et qui pourraient aider énormément les sportifs qui en ont le plus besoin. Il va falloir que l'on enregistre des records d'audience, alors pour ça, une seule solution. Il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant, là, tout de suite, là, stop, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous allez tout de suite sur Apple Podcast. Vous laissez une note 5 étoiles et une revue. Vous le faites aussi avec tous les comptes des membres de votre famille, s'ils ont un compte Apple. Et enfin, vous incitez vos amis à nous écouter et à laisser aussi de bonnes revues. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Monsieur Cédric. Salut les sportifs, c'est Hermano pour un 6e épisode du podcast Dans les vestiaires. Et aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir un superbe invité, qui a beaucoup marqué ma jeune carrière de triathlète. Maintenant, je suis plus si jeune. Salut Cédric.
Salut.
Eh bien écoute, je vais te laisser le micro pour en quelques mots nous dire qui tu es et ce que tu fais ou ce que tu as fait dans ta vie de sportif.
Eh bien écoute, je suis Cédric Florton. Voilà, j'ai 46 ans maintenant, donc un peu plus vieux que toi, j'ai cru comprendre. Comme tu disais, j'ai fait une carrière une première carrière dans le triathlon il y a quelques années maintenant. Pour situer un petit peu les années pratiques, c'était aux alentours des années 2000-2010. Je qualifie ça d'une quinzaine d'années, donc ça fait un peu moins et peut-être un petit peu plus. Ensuite j'ai stoppé ma carrière en 2010. Quelques années, j'ai fait d'autres projets, j'ai fait d'autres choses, et puis tout en faisant d'autres choses, j'ai repris une autre activité physique, un autre sport. Je me suis lancé dans un autre sport qui s'appelle le trail. Voilà, et depuis, je fais une petite carrière aussi dans le trail, sympathique, et puis j'ai repris un peu le triathlon. Et voilà, donc je végète entre plusieurs sports, ce qui me fait plaisir. Voilà pour une présentation très brève.
Ah ouais, alors c'était très bref. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails. Il va falloir que tu nous en dises un peu plus sur ton palmarès. Si je ne m'abuse, déjà, le triathlon, tu as découvert ça un petit peu sur le tard.
Voilà, donc le triathlon sur le tard, j'ai envie de dire, j'avais 20-21 ans, je crois. Donc c'est vraiment, et quand je dis 20-21 ans, c'est découverte du sport, de ce sport. Donc ça a mis quelques années, j'ai envie de dire, pour que ça devienne un peu sérieux et qu'il y ait des résultats un peu probants. Ouais.
Donc quelques années, c'est-à-dire ?
Moi, pour me construire, je pense que j'ai bien dû mettre 3, 4, voire 5 années. Ouais. 5 années, parce que j'ai dû signer ma première licence en 94. Et les premiers résultats, 98, où je fais vice-champion de France universitaire et un top 10 au championnat de France. Donc, c'est les tout premiers résultats. Voilà, et puis les premières Coupes du Monde, ça a commencé en 2000, 2001. Et puis vraiment, là où j'ai éclaté, c'est 2003. Voilà, 2003. Donc, ouais, ça fait quasiment 10 ans, finalement.
Ça rajeunit pas?
Non, non, mais bon, après, ça fait partie du passé et ça reste quand même des bons souvenirs. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me tourner sur le passé. C'est pour ça que j'oublie un petit peu les dates, tout ça. Mais voilà. Mais j'ai pas de problème avec mon passé, tout va bien.
Moi, ça me ramène justement dans les années 96, 17, 18, quand j'ai aussi découvert le triathlon. Et d'ailleurs, je pense que t'as connu un des copains avec qui j'ai pas mal nagé, qui est Francky Batelier.
Ah, bien sûr, bien sûr. Francky, Croustibat.
Vous étiez dans le même club, je crois.
Ouais, on est resté pas mal d'années dans le même club. Voilà, on a partagé pas mal de courses ensemble, voire même de déplacements. Il a fait quelques pitchs en équipe de France aussi, Francky. Voilà, bon. Ouais, effectivement, ouais, Francky, bon gars, mon pote.
Ouais, donc tu nous l'as dit, tu as découvert le triathlon sur le tard, ça a mis 3-4 ans pour faire tes premiers résultats, donc premier gros résultat, vice-champion de
Ouais,
France
donc,
universitaire.
en fait, quand j'ai commencé le triathlon, j'étais pas nageur. J'étais pas plus coureur, d'ailleurs, j'étais pas plus rouleur, hein. J'ai vraiment commencé. Bon, ceci dit, après, quand on analyse un petit peu ces trois sports, il y en a un des trois, la natation, où, effectivement, on va dire, en termes de technicité, c'est un peu plus fourni, c'est un peu plus complet. Donc voilà, et généralement, ce qu'on dit, c'est que quand on n'a pas nagé étant jeune, c'est difficile d'acquérir un bon niveau, un très haut niveau en natation. Donc voilà, donc ça a mis un petit peu de temps pour moi, ça a été beaucoup d'efforts. Autant en course à pied et en vélo, j'ai envie de dire, j'avais le moteur pour rapidement être à haut niveau, voire très haut niveau, parce que j'ai la chance d'avoir de bonnes capacités physiques, physiologiques. Et c'est vrai qu'en natation, on a beau avoir toutes les capacités, les meilleures capacités au monde, voilà, physiologiques, il faut aussi un bagage technique. Et ce bagage technique, il faut du temps, il faut de l'analyse. Voilà, donc voilà, j'ai commencé à zéro, parce que je me souviens, mes premières traversées de bassin, c'était apocalyptique. Je faisais 25 mètres, je m'arrêtais pour respirer, c'était compliqué. Et puis voilà, fil en aiguille, ben, voilà, j'ai réfléchi, je me suis filmé. Donc maintenant, c'est facile de se filmer avec une GoPro, on la met dans l'eau. Mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Il fallait un caisson, etc., un caméscope. Voilà, mais j'avais monté mes systèmes, etc. Et voilà, avec beaucoup de labeur, beaucoup de réflexion, j'ai réussi à progresser, mais bon, ça prend du temps. Voilà, pour arriver, j'ai envie de dire, au plus haut niveau dans le triathlon. Et effectivement, mon niveau natation a été déclencheur sur le niveau global, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que j'avais le niveau déjà, enfin, j'avais mes performances à pied et en vélo, enfin, ce que je pouvais produire physiologiquement dans ces deux sports, ça me laissait penser quand même que je pouvais faire de grandes choses. Me manquait juste, voilà, ce niveau de natation qu'il fallait pour arriver à sortir dans mon paquet et arriver à être performant. Et ben voilà, ben ça m'a pris quelques années parce que c'est un sport compliqué. C'est même souvent, on dit, hein, c'est ce que je disais au départ, hein, ça peut être rédhibitoire si on n'a pas les qualités de base. Et voilà, bah, j'ai réussi, moi, à progresser, à gommer un petit peu tous ces défauts et à arriver à nager au plus haut niveau. Et comme ça, quasiment du jour au lendemain, enfin, on m'a découvert d'une saison sur une autre parce que voilà, j'ai gratté un petit peu les secondes qui m'ont permis un jour voilà, de sortir dans mon paquet et de pouvoir m'exprimer ensuite sur le vélo et en course à pied.
Tu le dis, tu as commencé de zéro, donc ça pourra peut-être donner des idées et des ailes aux petits jeunes qui nous écoutent et qui se disent qu'il est trop tard pour commencer un sport. C'est bien la preuve qu'il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard et c'est vrai que peut-être que j'ai enfoncé des portes à ce niveau-là, mais moi, quand j'ai commencé dans ce sport, je pense qu'il n'y avait pas un entraîneur national, il n'y avait pas un entraîneur tout court qui aurait misé 1 € sur ma pomme, parce qu'effectivement, il me manquait ce bagage de natation. Bon, ben, j'ai fait des belles choses, on pourra en parler dans ma carrière, j'ai eu des résultats, etc. Ça, c'est bien. Mais ce dont je suis plus fier, on peut en parler, mais enfin, je sais pas si
Vas-y,
on peut en
vas-y,
parler,
bien
mais
sûr.
voilà, c'est le fait d'avoir effectivement enfoncé des portes, personne n'y était arrivé. Partir de zéro comme ça et arriver à un âge avancé, parce que 20 ans, 21 ans, on est mature, j'ai envie de dire. La construction psychomotrice est faite. Donc c'est toujours un peu. Généralement, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que les entraîneurs estiment les athlètes perdus du côté technique, parce que d'un côté psychomoteur, tout a été construit et c'est pas possible d'arriver à nager vite. Et ben moi j'ai réussi justement à ébranler un petit peu tout ça et à dire ben voilà c'est possible et voilà et puis du coup ben, derrière c'est vrai que ça a inspiré parce que je le sais parce que j'ai pas mal de gens qui me contactent ou des jeunes qui ont bien réussi maintenant hein, qui font des bonnes performances qui n'étaient pas forcément nageurs à la base et puis c'est vrai que si on écoute les entraîneurs enfin les premières paroles dans le monde du sport c'est ouais, c'est pas possible c'est mort et ben non au final avec beaucoup de travail attention hein, ça a été beaucoup de travail beaucoup de prise de tête ça n'a jamais été facile autant en course à pied et en vélo j'ai envie de dire c'était des progressions faciles il suffit de s'entraîner de faire des kilomètres et puis ça vient en natation c'est pas comme ça donc voilà donc ça a été très gratifiant et c'est vrai que c'était le côté sympa de ma carrière j'en parle pas souvent mais c'est vrai que d'avoir enfoncé ces portes-là c'était sympa quoi.
Bah, c'est justement le moment d'en parler. Alors, le but de ce podcast est d'enfoncer les portes sur le financement des carrières pro, mais vas-y, hein, fais-toi plaisir et tu l'as très bien fait. C'est aussi le moment d'enfoncer des portes sur les a priori, sur les façons de penser dans le sport. Mais pour revenir justement sur tes débuts, à ce moment-là, tu avais peut-être un peu plus le temps et un peu plus les moyens de financer ta progression fulgurante parce que, si j'ai bien suivi, tu étais étudiant à cette époque-là.
Ouais, donc moi j'ai découvert le triathlon, j'étais étudiant. J'ai jamais eu en tête de vivre de mon sport en fait. Donc moi je faisais des études, c'était pour bosser derrière. En fait, j'ai toujours fait des études par rapport à mes centres d'intérêt. Donc mon premier centre d'intérêt, j'aimais bien la biologie, j'aimais bien l'écologie. Donc j'ai fait un bac plus 2, à l'époque c'était un DOG, donc j'ai fait un DOG de biologie et à la fin de mes études de biologie, le traitement commençait à prendre un peu plus d'ampleur dans ma vie et j'avais envie d'apprendre sur l'entraînement. Donc j'ai viré d'orientation, bon c'est pas un gros virage entre la biologie et la physiologie j'ai envie de dire, et voilà, et du coup j'ai viré sur les études de sciences TAPS. Du coup, quand on est étudiant, pour revenir à ta question de base, c'est vrai que c'était pas facile. J'avais pas des grands moyens. Moi, j'ai pas des parents qui avaient des grands moyens. Donc, j'étais boursier, je vivais avec ma sœur. C'était pas vraiment facile. Mais bon, on arrivait à vivre en tant qu'étudiant. Et moi, je m'étais projeté dans ma vie. Je m'étais pas projeté comme sportif professionnel, enfin sportif de haut niveau. Et puis bon, c'est arrivé comme ça. Donc, je sais que la transition s'est faite naturellement. Quand j'ai commencé à faire quelques résultats, ça a pris un peu d'ampleur. Et puis voilà, je me suis dit que les études, ça devenait un petit peu compliqué. J'avais été suffisamment loin parce que je n'étais pas une flèche non plus. Je me sentais un petit peu limité. En tout cas, ça me demandait beaucoup plus d'investissement. Et voilà, c'était compliqué avec le triathlon qui est quand même pas la moitié d'un sport. Donc voilà, et puis j'avais vraiment envie de mener au bout cette aventure, de voir jusqu'à quel point je pouvais progresser et m'exprimer dans ce sport. Donc voilà, j'avais envie de pousser. Alors j'ai commencé ma carrière sportive, j'étais au club de Vau-en-Velin, donc très petite structure à échelle régionale, voire départementale. Donc c'était un petit club. Et puis j'ai été talonné par approché par un club qui était à l'époque hein, le Triatlex à l'époque qui était un club de renom de première division et voilà donc ils m'avaient proposé dans le deal si tu veux d'avoir un.
Tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite, je te
C'est
coupe.
vrai.
T'as dit que tu n'avais pas trop l'habitude de regarder en arrière, mais moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les débuts justement, où tu disais quand tu étais étudiant, c'était assez difficile pour toi parce que tu vivais comme un étudiant, hein, tu étais boursier, tu n'avais pas beaucoup de moyens. Malgré tout, tu as quand même trouvé l'énergie, la force et faut croire les moyens de pouvoir t'adonner à ton sport. Donc, si je refais le fil, t'as découvert ça à 20 ans, donc tu venais d'avoir ton deuil plus ou moins. T'as commencé à faire des résultats 4 ans après, vers 24 ans, donc entre les deux, pendant ces 4 ans-là, comment est-ce que tu as pu mener de front, on va dire, tes études et ton sport, et surtout financer, parce que tu l'as dit, triathlon, c'est pas la moitié d'un sport, il y a 3 sports, donc il faut trouver du temps, les moyens quand même pour manger et mettre à manger dans le frigo, et puis faut s'acheter un vélo aussi en triathlon.
Moi au début, en fait, j'avais récupéré le vélo de ma mère, donc voilà, non, j'avais zéro budget pour.
Ah, c'était
pour
route.
C'était très très route. Je l'ai encore le vélo, c'est un vieux Vitus. Il était, je m'étais fait renverser par une voiture, le cadre était tordu. Enfin, moi, j'avais vraiment un vélo. Bon, à l'époque, c'était vélo vitesse au cadre, mais bon, c'est pour commencer, c'était très bien et voilà. Donc, j'ai pas eu à m'acheter de matériel. Voilà, donc en fait, je pratiquais au début, je gagnais rien. Enfin, je gagnais rien. C'était vraiment une pratique sportive qu'on fait comme ça. Donc, le sport, ça ne me coûtait pas, en fait. Ça ne me coûtait pas, ça ne me rapportait pas non plus. Donc, en fait, j'avais la vie d'un étudiant normal, mais sauf qu'il s'entraînait. Après, c'était pas aussi, ça a été crescendo. Hein. Je ne me suis pas entraîné 20 heures par semaine. Dès le début, donc au début, ça a été ouais, ces 4 premières années, ça a été crescendo, quoi. Mais non, j'avais pas un sport qui m'a coûté forcément, parce que heureusement, enfin, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui avait un vélo qui était à peu près potable. Et puis après, à l'époque, voilà, une paire de baskets, ça coûtait pas le prix que ça coûte maintenant, je pense. Et puis ça durait un peu plus longtemps. Et voilà, c'était un peu la démerde, quoi. Donc après, je dis pas que j'avais l'équipement, j'étais loin d'avoir l'équipement le mieux, mais ça, c'était pas important. Mais j'avais l'équipement de base, et puis voilà, j'ai fait mes premiers résultats avec cet équipement-là. Ouais.
Ok, donc tu fais tes premiers résultats, 24 ans, à cette époque-là, je pense que tu finissais tes études, puisque tu étais en vice-champion de France universitaire. Et est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que Triathlex t'a fait des appels du pied?
Ouais, c'est ça, 98, j'ai dû signer en 99, Triathlex.
Ok, donc du coup, tu t'installes dans le sud de la France, tu commences à courir avec eux. Donc, tu avais commencé à nous parler du deal tout à l'heure. Est-ce que donc tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était quoi le deal? Eux, ils te proposaient un salaire ou ils te sponsorisaient? Ils te proposaient du matos? C'était comment?
C'était pas un salaire. À l'époque, c'était en francs. Hein. Moi, ça devait être 300. C'était 3 fois rien, mais c'était déjà énorme. Ils me prêtaient un vélo. Me donner du matériel, du vrai matériel, pour le coup, voilà, une combinaison qui ressemblait à quelque chose. Voilà, c'était un petit peu le début pour moi de truc sympa, quoi, un truc qui avance un peu, quoi.
Et alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait si on gagne pas grand-chose pour financer sa vie? J'imagine que tu devais avoir un appart et puis te déplacer, etc. Donc, le club t'emmenait peut-être quand il y avait des déplacements sur des courses, mais comment tu vivais au jour le jour?
Payer les déplacements, et puis je sais plus combien j'avais, mais c'était pas grand chose. Alors d'aujourd'hui, ça devait représenter une centaine, 100-150 euros, je pense.
Ok, ouais, donc vraiment pas grand chose, quoi.
Ouais,
juste,
ouais.
Juste les pattes avant la compétition.
Ouais. Non, bah après, c'est je pense que c'est la vie de beaucoup de jeunes que je vois, parce que je pratique encore. Le sport, et je suis encore entouré d'étudiants voilà, qui vivent, qui commencent dans le sport, et voilà, ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire, voilà, c'est la démerde, quoi. C'est la démerde, je vivais avec pas grand-chose, mais moi, je m'achetais rien, quoi. Et puis tout passait dans le sport. Voilà, après, quand on a une passion et qu'on est motivé pour quelque chose, de vrai, j'ai envie de dire, c'est un peu futile, et puis qu'on a, allez, 2-3 euros pour vivre tout simplement. J'avais pas, donc je sortais pas vraiment, je m'achetais pas grand chose, voilà, donc et puis bon, j'ai jamais changé d'ailleurs, j'ai une vie très modeste. Hein.
Bon, malgré tout, il faut quand même mettre à manger, il faut quand même remplir le frigo.
Ouais, bah c'était du basique, très basique, très basique. Alors après, au fur et à mesure des années, cette petite enveloppe là, elle a grossi. Avec les résultats et les années. Donc voilà, j'ai dû rester 2 ans triathlex, c'était bien. Après, c'était compliqué parce qu'effectivement, donc moi, j'étais vraiment limite en fin de mois, quoi. C'est vrai qu'ils n'étaient pas vraiment. Il fallait tout le temps que j'appelle pour avoir effectivement les quelques euros qui me devaient, parce que moi, je comptais vraiment dessus, parce que sinon, je finissais pas le mois. Et au final, c'était assez irritant, c'était assez pénible, parce qu'il fallait tout le temps que j'appelle, que je demande. Voilà, donc j'en ai eu un peu marre. Et j'ai été approché par un autre club qui s'appelle Sartrouville.
Tout triathlète qui se respecte connaîtra.
Ouais, donc on va dire grosse structure. Et là, il me proposait pas forcément plus, mais ça me semblait plus carré. C'était plus carré en fin de compte, et en plus c'était déclaré. Alors que triathlète, je peux le dire maintenant, il y a quelques années, mais c'était un peu de la bidouille. C'était un petit peu de l'argent qui sortait, on ne sait pas comment. Enfin, en tout cas, je ne le déclarais pas. Je pense pas qu'il le déclarait. Enfin, c'était un peu voilà. Et moi, j'avais besoin d'avoir une situation un peu plus carrée, parce que c'est ma manière de fonctionner. Et puis, je pensais aussi un petit peu à l'avenir. Donc voilà, quand j'ai commencé à Sartrouville, d'emblée, j'ai eu une feuille de paye avec des chiffres dessus. Enfin, c'était carré, quoi. C'était carré, c'est ce que je voulais, quoi. Je voulais pas avoir de soucis avec, parce que c'était pareil, ça commençait à devenir pas des sommes mirobolantes, mais voilà, des sommes qui se déclarent quand même. C'était pas 3 sous, quoi. Donc voilà, j'avais besoin vraiment d'une structure un peu plus carrée, et voilà, et qui me permette aussi d'exister, on va dire, socialement, quoi.
Tu commençais à devenir un sportif professionnel. Tu vivais pour et par ton sport.
Ouais, alors comme je le dis, hein, c'est vraiment crescendo chaque année en fonction des résultats. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une progression constante et régulière. Donc chaque année, en gros, ben, le jeu, c'est de renégocier un petit peu voilà, cette enveloppe, et puis ben, cette enveloppe, elle devenait toujours un petit peu plus conséquente en fonction des résultats. Et puis voilà, après, il n'y a pas. Enfin, si vraiment on veut parler finance, il y avait effectivement le Sartrouville qui me payait, mais c'était pas. Après, j'ai eu d'autres sources de revenus. Une prime de course, c'était quand même, voilà, quand tu commences à faire des top 10 sur Coupe du Monde régulièrement, gagner des Coupes du Monde, voilà, sachant que Coupe du Monde à l'époque, c'était 12 000 dollars, tu vois, donc ça commence à parler.
12 000 euros, enfin 12 000 dollars à l'époque, quand tu te reprojettes dans ta situation au Triathlex, c'était quasiment ton année, c'est
Ah
ton budget
ouais.
annuel, quoi.
Ouais, non, non, c'est pour ça que j'ai eu une. Voilà, ça marchait plutôt bien. Hein. Ouais, j'ai eu des belles années. Des belles années. Alors attention, on est loin des sommes dans d'autres sports. Mais pour ce que je faisais, les contraintes que j'avais, le plaisir que j'y prenais, quand j'y repense, c'était quand même des belles années.
Est-ce que à côté, tu avais un métier?
J'ai eu quelques missions. J'ai bossé un temps à mi-temps. Mais non, c'était dur. Hein. C'est dur, hein, de travailler quand on commence à faire 2-3 résultats, et puis qu'on a l'ambition de faire un peu le circuit Coupe du Monde. C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Donc non, j'ai pas trop bossé en fait toutes ces années. Ouais. Ouais. En gros, j'ai commencé à bosser à 37 ans, quoi.
C'est comme le sport, il n'y a pas d'âge pour commencer.
Ouais. Donc j'ai commencé tard comme le sport, ouais.
Que la belle époque, Coupe du Monde et autres, là, ça payait un peu mieux. Tu nous disais que tu avais été rémunéré donc principalement par Sartrouville quand tu as intégré le club. C'est là que ça commençait à devenir un peu plus sérieux. Est-ce que tu avais aussi, dans les autres sources de revenus, été chercher des partenaires, des sponsors?
Un prix de mon résultat principalement, et puis après, bon, ça peut être un vélo, deux vélos dans l'année qu'on vend en fin d'année, bon. Quand on connaît le prix des vélos, ça peut aussi remplir frigo, comme tu dis.
Là, on parle vraiment de l'âge d'or du triathlon, hein. Les fins des années 90, début des années 2000, c'était vraiment la belle époque. Je pense que maintenant, il y a un peu plus de monde, donc c'est peut-être un peu plus compliqué pour les petits jeunes. Mais là, vraiment, à ce moment-là, les sponsors te filaient de l'argent sonnant et trébuchant, voire tu disais c'était plutôt des primes de course. Au résultat, si tu faisais un beau résultat, t'affichais leur logo et ils allongeaient le chèque, c'est ça?
Mais pas énorme, hein. C'est pas là où j'ai gagné plus d'argent. Ouais, les primes de course, ça peut aller vite. Et puis, Sartrouville me payait bien. Alors, si tu veux des ordres de prix, je peux te le dire. À l'époque, je devais toucher aux alentours de 30 000 euros. J'ai pas de souci de parler d'argent parce que j'ai toujours tout déclaré, tu sais. Donc, hormis mes premières années chez mes premières années de traitement, mais c'était pas des sommes, voilà. Sinon, après, justement, moi, j'ai toujours eu ce côté un petit peu, voilà, j'aime bien être carré. Hein. Je sais pas, j'avais besoin de ça pour être libre dans ma tête.
Okay, donc ça, c'était pendant ta carrière de triathlète professionnel.
Ouais, entre 2004 et 2008, ça rentrait bien, ouais. C'était bien, ouais.
Tu nous l'as dit, 2008, t'as arrêté?
Fin 2009, ouais.
Donc c'est à peu près le moment où tu t'es mis à travailler. Est-ce que tu avais déjà réfléchi au plan reconversion sur les dernières années ou ça a été un arrêt qui a dû être forcé, brutal?
J'ai eu une CIP, contrat d'insertion professionnelle, avec une grosse entreprise française qui s'appelle la SNCF. En tant que sportif de haut niveau, donc je travaillais très très peu. Quand je dis très très peu, c'était l'ordre d'un huitième de temps, quoi. Et j'avais un salaire normal, un petit salaire normal, voilà. Donc en plus de tout le reste, donc tu vois. Mais le deal, c'est que le jour où tu arrêtes ta carrière, ben, ça te fait une reconversion toute faite. T'as pas besoin, si tu veux, le temps de ta carrière, de te soucier de tiens, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, tu sais que ouais, y a déjà au moins ça pour la suite, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai arrêté en 2010? Et ben c'est le jeu du sport, hein. Le jour où t'arrêtes, t'es plus personne. Donc plus personne, t'as tout qui s'arrête. Et du coup, bah j'ai été bosser. Donc j'ai pris un temps plein à SNCF. Voilà, je suis encore à SNCF aujourd'hui. Voilà. Alors après, est-ce que j'avais anticipé? À la SNCF, j'avais pas trop anticipé. Ceci dit, j'avais d'autres plans d'action, j'avais d'autres choses en tête. Et quand j'ai arrêté le triathlon, j'ai monté une société en parallèle. Donc en fait, j'avais deux activités en même temps. Donc je commençais à la SNCF et en même temps, j'ai monté une société qui vendait des vêtements sportifs. Personnalisé, personnalisable. J'ai repris une marque américaine et j'étais distributeur en France, voilà, pendant quelques années. Ouais.
Finalement, tu as arrêté le sport, mais tu as continué à être à fond, aussi bien dans le boulot que dans un autre projet.
Ah, j'étais à fond, ouais. J'étais taquet parce que je menais deux activités. Alors, je commençais, on va dire, un vrai métier à la SNCF. Donc, c'est commencer une nouvelle activité, c'est jamais facile. J'avais pas mal de choses à apprendre. Hein. Et puis, je commençais mon activité, mon entreprise. Et là, c'était encore aussi beaucoup d'investissements et beaucoup de temps y passer à consacrer, quoi. Ça m'a occupé l'esprit, si tu veux, tu vois. Quand t'arrêtes le sport, ça fait un grand vide. Ben, ce grand vide, je l'ai pas eu parce que, voilà, j'ai vraiment comblé avec le boulot, quoi.
Alors, si j'ai bien compris ta carrière, tu l'as bien comblée, mais finalement pas si longtemps que ça, parce que quelques années après, t'as pas pu t'empêcher de rechausser les baskets et d'y retourner.
Ouais, après, bon, c'est un peu les hasards de la vie, sachant que j'avais pas un manque particulier de sport, j'avais pas spécialement envie de replonger dans une activité sportive intense, intense entre guillemets, hein. Mais j'avais pas spécialement envie de refaire une carrière dans quelque sport que ce soit, mais bon, le hasard a fait que les hasards de la vie ont fait que voilà, je me suis séparé, j'ai remis un dossard, j'ai repris du plaisir en faisant du sport, enfin bref, voilà, des petites choses qu'on fait que voilà, puis j'ai eu la chance aussi d'être encore performant dans un sport différent. J'ai pas eu besoin de beaucoup de travail, enfin c'est arrivé assez vite, et puis voilà, puis j'ai replongé dans le sport de haut niveau de manière complètement différente, hein, d'ailleurs, mais ouais, j'y suis encore aujourd'hui, mais vraiment, enfin ça a rien à voir, quoi. C'est incomparable avec ma vie de triathlète, ma vie de trailer, là, ma vie sportive aujourd'hui, c'est ça a rien à voir.
Alors, tu dis justement que c'est de manière totalement différente. En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que tu prends ça un peu plus dilettante déjà? Et puis, est-ce que tu as moins la pression des résultats parce que tu as toujours un job et toujours un salaire qui tombe et finalement...
Ouais, enfin bon, je me suis jamais trop pris la tête, même quand j'étais triathlète, mais encore moins maintenant. Non, après, les entraînements sont quand même... ça n'a rien à voir, quoi. Avant, Avant, c'était mon. J'avais que ça en tête et voilà, il fallait que je perf pour exister, enfin pour exister, pour vivre. Et voilà, maintenant c'est différent. C'est différent, j'ai beaucoup moins de pression. Enfin, quand je dis pour vivre, c'était plus. Enfin, j'avais vraiment des objectifs. Je voulais faire les championnats du monde, je voulais être champion du monde, je voulais faire les Jeux Olympiques. Voilà, donc ça m'occupait vraiment. J'avais très envie. Donc voilà, c'était vraiment une motivation au quotidien. Voilà, maintenant, c'est plus. Ouais, je prépare une course de temps en temps.
Est-ce que du coup, tu me disais que tu es toujours salarié de la SNCF, est-ce que
Ouais.
du coup, tu as un aménagement d'horaire pour pouvoir t'entraîner ou même pour partir en compétition ou tu es obligé, comme tout le monde, enfin comme tout sportif entre guillemets amateur, même de bon niveau, de t'organiser tes journées et de prendre des congés quand tu vas sur le circuit mondial?
Non, j'ai pas d'aménagement, donc j'ai un boulot plein temps, et puis ça, je suis dirigeant de proximité, donc c'est des boulots qui sont assez exposés et ouais, où on bosse beaucoup, ouais. Ouais, donc je bosse voilà, donc je bosse comme tout le monde. Je bosse pas moins que tout le monde, je bosse vraiment comme tout le monde, si ce n'est plus. Et voilà, la seule petite largesse que j'ai, c'est que je peux aménager plus ou moins mon planning de boulot, quoi. Mais sinon, je bosse non, j'ai un vrai job qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Non, c'est un vrai job.
Une question là complémentaire qui me vient, tu nous as dit que tu as commencé vraiment à travailler. Alors, je ne suis pas dupe, je sais qu'une carrière de sportif pro, c'est aussi du travail, hein, mais tu as commencé vraiment à rentrer dans le monde du travail à 37 ans. Comment est-ce que, en tout cas en France, comment est-ce que sont considérées ces années que tu as, entre guillemets, données à la nation comme sportif de haut niveau pour la représenter, notamment en termes de retraite? Est-ce que ta retraite commence à courir à partir de, bah, du premier jour où tu as signé à la SNCF ou où il y a un système d'années de compensation? Comment ça marche?
Non, il n'y a pas de reconnaissance, hein. Donc là, il y a eu une action, j'ai envie de dire, de par le gouvernement pour reconnaître effectivement ces années un petit peu particulières de sportifs de haut niveau, mais ça commence qu'à partir de 2012. Donc tous les athlètes qui sont passés avant, donc c'est mon cas, qu'on fait le job de sportifs de haut niveau, qu'on porte les couleurs d'équipe de France, ben, c'est dommage, ils avaient commencé après, mais non, c'est reconnu qu'à partir de 2012, donc j'ai envie de dire, ça compte pas. Après, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, le fait d'avoir une feuille de paye, d'être reconnu comme travailleur, voilà, moi, c'était le seul club qui le proposait à l'époque, hein, Sartrouville. En tout cas, moi, c'était une demande forte de ma part. Donc, certes, j'ai gagné moins. Mais d'un autre côté, j'ai pu cotiser, et effectivement maintenant c'est des, on appelle ça des trimestres, hein, j'ai pu cotiser des trimestres, voilà, donc c'est pas des années perdues me concernant, c'est pas des années perdues heureusement, mais après j'ai pas non plus cotisé énormément, quoi.
Non, mais en tout cas, et c'est un conseil qu'on pourrait donner aux petits jeunes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans une carrière de sportif pro, ça fait partie des sujets à étudier, c'est-à-dire commencer à cotiser le plus tôt possible, donc sans forcément rechercher l'appât du gain, en tout cas, éventuellement chercher un club ou une structure qui vous permet aussi d'avoir ce statut de salarié et de cotiser pour la retraite. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression quand même que tu as vécu dans les belles années du triathlon, les années d'or du triathlon, en tout cas en France.
Ouais, mais je crois que toi, tu en parlais tout à l'heure, mais je t'ai pas coupé, mais ouais, c'était des belles années, mais je pense que les meilleures années, c'était encore même avant, quoi.
Ouais.
Toi, tu as connu, hein, tu en parlais tout à l'heure, les années 90, là, où le début du triathlon, en fait, hein, j'ai cru comprendre que c'était, il y avait vraiment des primes, des primes de course qui étaient super intéressantes, hein.
Ouais, il y avait une densité beaucoup moins importante aussi, je pense.
Je pense qu'il y a eu une génération avant nous, exactement, qui a vraiment profité du triathlon et qui en vivait bien et qui se faisait plaisir. Et effectivement, ils n'étaient pas nombreux. Ouais. Et après, ça s'est un petit peu de plus en plus, je pense. En même temps que ça se professionnalise, ça se structure, et ben, ça demande de plus en plus d'argent pour les organisateurs aujourd'hui. Hein, je pense, le mec qui veut organiser quelque chose aujourd'hui est obligé de se payer la sono, est obligé de se payer le speaker, le chronométreur, le médecin, le machin. Enfin bref, donc ça lui fait déjà une grosse enveloppe, voilà, qui est redistribuée pas dans le dans les prize money. Donc à l'époque, je pense que c'était plus, voilà, l'enveloppe, elle était plus distribuée pour les coureurs.
On était un peu plus en mode artisanal. C'est vrai que je me souviens de mes premières courses où ça ressemblait pas du tout à une course de triathlon maintenant. Mais bon, c'est vrai que le matos n'était pas le même non plus, notamment quand on regarde les vélos, comme tu dis, quand t'as commencé en 96, t'as commencé avec le vélo de ta maman et maintenant, c'est un peu le concours à celui qui a la plus belle machine dans le parc.
Ouais, c'est clair.
La semaine dernière, on avait Sandra Coutard, qui est une jeune voileuse de 18 ans, qui va se préparer pour Paris 2024, qui nous disait que elle, de son côté, la Fédé n'est pas du tout en mesure d'aider, et du coup, tout ce qui est déplacement, notamment avec le bateau, parce qu'il faut qu'elle déplace son bateau, c'est quasiment tout à sa charge. Est-ce que, en tout cas, toi, quand tu étais dans le circuit triathlon fin 90, début 2000, est-ce que la fédération vous prenait en charge quand vous alliez sur les grands rendez-vous internationaux pour représenter la France, ou tout était à ta charge?
Moi, j'ai vécu les deux, si tu veux. J'ai vécu pendant pas mal d'années, si tu veux, j'ai été boudé, entre guillemets, j'ai été boudé par la fédération parce que j'étais un électron libre. Je m'entraînais de mon côté, mes qualités, j'étais pas nageur, donc personne croyait en moi. Enfin bref, donc j'ai dû faire beaucoup de résultats par moi-même, c'est moi qui me payais mes déplacements, c'est moi qui allais sur des courses, alors, qui n'étaient pas les Coupes du Monde à l'époque, c'était Coupe du Monde niveau 1 et Coupe du Monde niveau 2. Donc Coupe du Monde niveau 1, on pouvait pas y aller et s'inscrire comme ça, donc je faisais les Coupes du Monde niveau 2, donc j'ai pas mal voyagé par moi-même, donc c'est moi qui payais mes déplacements, voilà. Et puis le jour où vraiment j'ai été connu, reconnu par ma fédération, là après tout était pris en charge par la fédération. Et la fédération, à partir du moment où on est, j'ai envie de dire, en équipe de France, en préparation olympique, elle joue quand même, c'est le jeu à ce niveau-là, quoi. Donc je payais pas mes déplacements. Mais pendant pas mal d'années, j'ai dû, pour faire mes preuves, si tu veux, ce qui est un peu normal, hein, je trouve que c'est un peu normal. Voilà, il a fallu. Par contre, c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mes preuves, si tu veux, pour avoir ma place. Contrairement à certains, mais bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc pour faire ses preuves, il faut mettre la main à la poche. Et puis voilà. Et après, une fois qu'on est dans l'équipe, la Fédé prend en charge quand même pas mal de choses. Que ce soit les stages, que ce soit les déplacements coûtent cher, parce que se déplacer avec un vélo, ça coûte cher. Donc, non, j'ai fait des beaux voyages sympas.
Est-ce que maintenant, justement, tu sais si pour les petits jeunes qui sont, qui commencent le triathlon, enfin, qui commencent à percer dans le triathlon, est-ce que la Fédé est aussi généreuse, ou est-ce que tu as un petit peu lâché, t'es plus trop en contact avec les triathlètes?
Je pense qu'elle est, elle est peut-être un petit peu moins généreuse que passé un temps. Alors, je m'explique, moi, à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait des crêpes, où les crêpes c'était des structures d'entraînement, hein, labellisées par la fédération, où il y avait énormément d'athlètes. Donc, il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient plus ou moins bons d'ailleurs, mais il y avait beaucoup d'athlètes et en gros tout le monde avait la même enveloppe, quoi. Et maintenant j'ai l'impression que c'est un peu plus ciblé. Donc c'était un petit peu mes regrets, moi, quand j'étais triathlète et que j'étais performant, c'est que en gros les aides c'était les mêmes pour tout le monde, quoi. Que ce soit le jeune qui a fait qui a été champion de France UNSS ou je ne sais quoi, il était aidé de la même manière que l'élite qui fait deuxième au championnat du monde, quoi. En gros il y a peu de différence parce que c'était très social, j'ai envie de dire, alors que le sport c'est antisocial quand même. Enfin, en tout cas, il n'y a qu'une place sur le podium, tu vois ce que je veux dire, que tu peux pas non plus aider tout le monde. Donc voilà, donc c'était, moi je trouvais que c'était un peu, c'est le gâteau était un peu mal partagé entre vraiment les besoins et le niveau de certains. Maintenant, je pense que c'est un petit peu plus orienté. Et c'est un petit peu plus fin, j'ai l'impression, c'est-à-dire voilà. les athlètes, c'est peut-être, c'est pas facile pour, effectivement, pour les athlètes qui doivent faire leurs preuves, mais ça, je trouve que c'est un parcours un peu initiatique qui est intéressant aussi, hein. Je veux dire, c'est, moi, je suis passé par là, ben, voilà, quand t'as les dents longues, quand t'es en phase de faire tes preuves, et ben voilà, ben, tu prends des risques et tu vas sur des compétitions, ben, ouais, c'est toi qui va te démerder pour trouver deux, trois sponsors, c'est toi qui te démerdes, mais d'un autre côté, ben, ça te met un petit peu la pression, et ça, c'est la vraie pression du sport, tu vois. Pas vraiment aider, non, mais c'est vrai, et je pense que c'est un mal nécessaire pour justement se mettre la pression et arriver performant, quoi. Et après, je trouve tout à fait normal que, ben, une fois qu'on a fait ses preuves, une fois qu'on a montré un niveau de performance élevé et qu'on peut effectivement apporter des résultats à la nation, et ben, effectivement, qu'il y ait une prise en charge conséquente, parce qu'après, il faut, après, c'est, on rentre dans une structure, une vision des choses un petit peu différente où, voilà, c'est vraiment l'athlète doit être accompagné, il doit être soutenu, voilà, et je pense que la Fédé le fait de mieux en mieux, ça. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment labellisés au niveau, qui sont en mesure de, bah, de faire les Jeux ou d'apporter des titres à l'équipe de France. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus, on les écoute un petit peu plus sur leurs besoins. Et ça, je trouve que c'est pas plus mal. Je pense que c'est Franck Binet là, qui a fait pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. Ouais. Ouais, c'est genre, tu fais tes preuves, une fois que tu as fait tes preuves, on va t'aider, mais et on t'aidera comme tu le veux. Voilà.
Mais
Et,
montre-nous d'abord que tu es capable.
voilà, montre-nous d'abord que tu es capable. Et je trouve que montre-nous d'abord que tu es capable, je trouve que c'est quand même super important dans le sport, ouais.
Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais intégré la SNCF, mais que malgré tout, tu avais quand même d'autres pistes en tête. Est-ce que, par exemple, tu avais pensé à l'armée, l'armée des champions? Je sais que c'est quelque chose qui ressort souvent, et notamment, Francky était militaire.
Alors, moi, à mon époque, il y avait trois possibilités, hein. En gros, la fédération était partenaire entre guillemets avec trois entités. Donc, il y avait la SNCF, il y avait l'armée et il y avait la police. Donc, en gros, la police, c'était, ça aurait pu être pas mal, mais la police, il fallait consacrer une année, c'était une année quasiment à temps plein consacré à la police, c'est-à-dire il fallait être agent. Enfin, il y avait toute une formation qui
Oui,
était.
t'avais l'académie de police pendant un an.
Voilà, exactement. Et moi, j'avais pas un an à perdre, sachant que j'avais commencé tard et ça, voilà, ça me disait moyen de perdre une année. Après, l'armée, ben, moi, j'ai failli re-rentrer à l'armée parce que j'ai fait mon service militaire. Moi, j'ai eu la chance ou pas de faire mon service militaire et c'est pas super bien passé, si tu veux. J'ai pas eu une super expérience avec l'armée, donc j'avais pas trop envie voilà, de retourner dans ce milieu-là. Et du coup, ben, il y avait la SNCF qui me paraissait pas mal. Et du coup, ben, ça a pris quelques années, hein. Ça aurait pu être plus rapide et avec la police ou l'armée, mais ouais, j'ai attendu quelques années pour entrer à SNCF.
Justement, donc ça remonte déjà à quelques années, mais quand tu as fait ce choix d'intégrer plutôt la SNCF, comment est-ce que ça se passe?
C'est des petits papiers entre l'entreprise et la fédération, en fait. Donc, c'est pas toi directement qui va demander. Voilà, donc la fédération, il y a une personne voilà, qui est chargée de la reconversion des sportifs de haut niveau. Et voilà, et après, ça fait partie de ses dossiers. Et il investit les entreprises en fonction des souhaits du sportif.
Tu es en contact avec la personne de la fédération, donc là en l'occurrence on parle de la Fédération française de triathlon, avec qui vous avez très certainement négocié cette CIP, cette convention d'insertion professionnelle, et puis tu donnes tes souhaits et après c'est cette personne-là qui va aller à la recherche du poste qui va correspondre à tes attentes, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
La personne en charge des CIP va aller voir les entreprises pour préparer la reconversion. Donc c'était vraiment une démarche de préparer la reconversion pour toi, ou c'était plus sur tes dernières années, tu sentais que c'était la fin, mais tu avais aussi besoin d'un financement et donc tu as cherché un job et peut-être dans l'idée d'une reconversion, ou c'était vraiment la programmation de ta reconversion?
Moi, c'était une sécurité. Donc, effectivement, je gagnais. On l'a dit, hein, je gagnais plutôt pas mal ma vie, donc c'était pas vraiment un besoin au quotidien, mais c'était un besoin pour après, c'est-à-dire poser mes valises, c'est-à-dire même dans ma tête être serein, me dire demain, parce que le sport, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je prends mon vélo, je vais au bout de la rue, je tombe, je me casse le coude, voilà, c'est plié, t'as une saison, deux saisons, et puis c'est fini, t'es oublié, quoi. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une carrière de sportif, ça se joue à pas grand-chose. Et donc voilà, il faut assurer un petit peu les arrières, faut pas être inconscient. Donc voilà, moi je suis toujours parti du principe que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain et que du jour au lendemain il aurait fallu que je gagne ma vie, surtout que entre toutes ces années, on l'a pas dit, mais je suis devenu marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu deux enfants, donc voilà, donc c'est quand même un certain nombre de responsabilités, donc je pouvais pas me permettre, si tu veux, de prendre des risques et me dire, ben, du jour au lendemain, si je perds tout, j'ai rien, quoi. Donc c'était surtout dans ce but-là que j'ai signé à SNCF.
Tu nous as dit aussi que tu avais réussi à avoir quelques partenaires, quelques sponsors, qui te filaient principalement des primes sous forme de primes de résultats quand tu avais des résultats. Comment est-ce que ça se passe, ou à l'époque, comment est-ce que ça se passait une négociation avec les sponsors? Est-ce que là aussi, c'était la fédération qui faisait l'entremise, ou c'est toi qui faisais toutes les démarches?
Non, bah c'est moi, j'étais un petit peu entouré par des potes, hein, qui voilà, des fois c'est les sponsors eux-mêmes qui viennent, c'est les marques, voilà, des fois c'est le club qui est source de proposition ou qui met un peu la pression avec tel ou tel équipementier. Donc ouais, ça dépend, ouais. Ça dépend. Moi, j'ai pas eu des tas de partenaires non plus, donc voilà, moi j'étais plutôt du genre fidèle quand ça marchait bien, et ben voilà, et puis qu'il y avait un bon feeling, il y avait une bonne relation humaine, on poursuivait, quoi, sans, voilà, j'étais pas genre à demander tout le temps des trucs. Donc j'ai eu des beaux sponsors qui étaient pas forcément généreux, mais avec lesquels j'ai vécu des trucs sympas, donc.
Est-ce que bah justement ces sponsors-là, vu que c'est toi qui allais vers eux, j'imagine que c'est un peu toi qui les choisissais, mais quand eux venaient vers toi, est-ce que tu cherchais aussi à ce que ce soit des partenaires qui soient en accord avec tes valeurs, ou tu prenais tout ce qui venait?
Non, le plus possible, j'essayais de prendre des sponsors qui étaient qui correspondaient à ce que je suis, quoi. Par exemple, je te cite un exemple, j'ai jamais eu vraiment de partenaire produit énergétique, par exemple. J'ai été approché longtemps, voilà, j'en ai eu que deux dans toute ma carrière. Pourtant, là, pour le coup, j'ai fermé pas mal de portes parce que voilà, moi je voulais quelque chose d'assez sain et sur, comment dire, et même dans le discours, si tu veux, c'est vrai qu'il y a des marques qui arrivent, sans les citer, mais bon, ils appellent ça des gels, des fléchettes, des coups de fouet, tu vois ce que je veux dire. Et puis moi, ça m'a, non, je suis toujours parti du principe que ces questions de diététique, de supplémentation, voilà, ça devait rester assez naturel. Et voilà, je voulais pas promouvoir, si tu veux. En tout cas, je me sentais pas dans ce rôle-là de promouvoir un truc qui était complètement chimique, surdosé d'arômes, de plein de choses dégueulasses, quoi. Voilà, tout ça pour prendre un chèque. Voilà, donc j'ai toujours fait un peu gaffe à ça. Donc j'ai souvenir d'un partenaire que j'ai eu, il s'appelait Banactive. Donc Banactive, c'était un produit à 99%, c'était que de la banane. Donc ouais, j'avais été approché par cette marque qui a été assez éphémère, du coup, et là j'avais répondu présent, c'était assez sympa, j'aimais bien les produits, et puis même on avait fait deux trois regroupements, c'était sympa. Mais voilà, typiquement, tu vois, ça collait bien à mon image plutôt que d'autres qui étaient voilà, qui étaient fabriqués je ne sais où avec je ne sais quoi dedans. C'est pas possible, quoi.
On arrive tout doucement sur la fin de cet épisode, un petit peu à la méthode Barthes dans Extraterrien. J'aurais deux petites questions à te poser. Allez, la première, si tu devais revenir en arrière, même si tu regardes pas trop derrière toi, et si tu pouvais te dire un petit quelque chose à l'oreille du petit Cédric, enfin petit, pas si petit que ça, mais 18, 19 ans, 20 ans, quand tu commences le triathlon, qu'est-ce que tu te dirais?
Vas-y, cool, ça va venir, quoi. Voilà. Non, c'est vrai qu'on a toujours. Et puis je le vois, je vois bien les petits jeunes. Là, on voit toujours que ça arrive vite, que ça. Voilà. Puis au final, voilà, ça demande toujours un petit peu de temps. Et puis on se construit avec le temps, quoi. Donc, et ça, Il faut du temps pour se construire et arriver à maturité, quoi. Et c'est cette maturité, bien souvent, j'en ai parlé avec Bart, mais effectivement, je trouve que dans ce sport-là, enfin dans ces sports qui touchent plusieurs sports au final, hein, il y a trois sports en un, donc ça demande une grosse expérience et une grosse maturité sportive parce que voilà, faut réussir à se maîtriser et à se contrôler et à créer des pics de forme dans trois disciplines et d'arriver à faire ces trois pics de forme le même jour dans trois disciplines différentes. Donc ça demande quand même beaucoup d'années de pratique. Voilà, faut pas se presser, faut s'écouter. Voilà, réfléchir, être curieux, curieux, voilà. Regarder ce que font les autres, bouquiner, voilà. Donc voilà, pas se précipiter. Et puis c'est vrai que quand on est jeune, on est un peu fougueux, quoi. Donc on y va tête baissée, quoi. Mais c'est aussi une manière d'apprendre. Hein, mais des fois c'est un peu brutal, quoi.
Ouais, puis des fois il faut tomber pour apprendre à se relever, mais quand tu tombes en triathlon, c'est pas forcément la meilleure solution.
C'est clair.
Et puis une deuxième question, bah tiens, si on parlait encore des jeunes, si tu voyais un petit jeune là maintenant de 15-16 ans et qui te dit moi je veux faire comme toi, je veux devenir champion du monde, je veux tout péter dans le triathlon, quel conseil tu lui donnerais? Alors, si ce n'est effectivement vas-y doucement, mais vraiment plutôt des conseils pratiques.
Ben moi, sincèrement, hein, je dirais ben, déjà construis-toi un avenir parce que le triathlon, c'est pas l'avenir. J'ai envie de dire, moi je suis un cas particulier. J'ai fini ma carrière de triathlète à 37 ans, mais il y en a qui finissent bien avant. Il y en a à 25 ans, c'est plié. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose. C'est très compliqué. On le sait très bien, hein. Le sport de haut niveau, c'est peu d'élus pour beaucoup d'accessis. Donc voilà, ça joue à pas grand-chose. Donc vraiment assurer les arrières, quoi. Donc voilà, tes qualités, enfin, ce que je dirais à ce gamin-là, c'est tes qualités, tu les auras, quoi. Elles vont pas s'évaporer, quoi. Donc prends le temps de réussir quelques lignes d'études. T'es pas obligé de faire un bac plus 10, voilà, mais au moins un minimum qui te permette de raccrocher un jour un bon wagon pour faire un métier qui te plaît ou raccrocher d'autres études. Voilà, et puis passer ce cap-là, et ben ouais, ça vaut le coup de consacrer du temps, voire de faire des sacrifices. Donc il faut y aller s'il y a vraiment l'envie, la motivation et puis un potentiel. Ouais, ça vaut le coup de tester, mais toujours assurer quand même les arrières avant, quoi. Et chose tellement plus importante que le sport. Le sport, c'est rien dans la vie. C'est rien. Et une vie de sportif de haut niveau, tu peux être champion à 24 ans et être clochard à 26 ans. Donc voilà. Il faut réfléchir à tout ça, quoi. Et vraiment faire les choses dans l'ordre, quoi. Hein? Pas sauter les étapes.
Bon, bah écoute, tout ceci me laisse sans voix. Est-ce qu'il y avait un dernier point que tu voulais aborder dont on n'aurait pas parlé dans cet épisode?
Non, bah non, non. Écoute, voilà. Maintenant, je fais toujours du sport, mais je gagne que dalle. Mais bon, parce que le thème était quand même autour de l'argent. Donc voilà. Non, maintenant, je vois vraiment que c'est. Enfin, pour moi, c'est difficile dans le sens où voilà. Donc j'ai un métier effectivement, mais je gagne pas ma vie. C'est pas ça gagner sa vie. Donc j'ai la belle vie. C'est vrai que je me plains absolument pas sur mon sort parce que voilà, j'arrive à faire des choses sympas et je m'éclate bien. Mais c'est vrai que ma forme et mes résultats, ça peut faire rêver. J'ai envie de dire des quarantenaires voire même plus. Mais mon compte en banque est Et mon salaire, ça fait rêver personne, je suis sûr. Mais bon, j'ai la belle vie quand même. Tout va bien. Voilà.
Bon, c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Et si nos auditeurs veulent rester en contact avec toi, veulent te suivre, veulent en savoir plus sur tes résultats à venir, quel est le meilleur moyen?
Instagram, Facebook. Donc là, j'ai une année un peu chargée avec un projet qui s'appelle Xefi Extreme Team. Donc, il y a tout sur Facebook, il y a une page Facebook, il y a une page Insta. Voilà, et puis bon, moi je suis toujours un peu sur Facebook, je balance toujours quelques trucs. Après, je suis un peu fou au niveau des invitations, mais voilà, Insta aussi, j'essaye, mais bon, après, je suis pas la star des réseaux sociaux.
Mais on est plutôt jeune, c'est pour ça, on a pas tous les codes.
C'est pas ma génération. Mais je me soigne. Je
Merci beaucoup Cédric pour
t'en
cette
prie.
interview.
Merci
C'était
à
très
toi.
sympa de ta part d'avoir répondu présent. Et puis bah je vous souhaite en tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview.
Allez, salut.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.info ou avec une revue sur Apple Podcast. Ah, et une dernière chose. Encore une fois, je vous le répète, le mercredi 11 mars, avec Bart, nous organisons un second apéro sport podcast. Ce sera à Paris, à partir de 18h30 et jusqu'au bout de la nuit. Enfin bon, jusqu'à ce que le dernier tombe et soit fatigué. Nous serions super heureux de vous y revoir. Tous les détails sont sur l'événement Facebook ou dans les notes de l'épisode. Et je vous mets aussi toutes les infos sur Cédric pour pouvoir suivre son projet fou. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!